Dieu notre Père, nous voici dans ta présence. Nous sommes venus chacun avec une ou des attentes. Et c'est auprès de toi que nous sommes venus. Seigneur, dans ta présence, nous ne pouvons pas sortir tel que nous sommes venus. Parce que à chaque fois que nous sommes dans ta présence, tu nous donnes en même temps de mieux te connaître, de te connaître davantage, et en même temps tu nous donnes aussi nous-mêmes de nous découvrir, de nous connaître mieux. Parce que l'homme, en réalité, ne se connaît pas comme il se doit. Alors, nous prions que le Saint-Esprit vraiment nous aide à bien rentrer dans ta présence, à bien soutirer véritablement ce que tu veux nous transmettre ce matin. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nous ce matin. En tout cas, dispose nos cœurs, dispose nos êtres tout entiers, nos esprits, et rends-nous sensibles à ta présence. Parle-nous, Seigneur, nous te présentons aussi nos enfants, en tout cas, que tu parles aussi à leur cœur à travers l'enseignement de ta parole, et que cette parole trouve une place, mais vraiment une place de choix dans leur cœur, et que la foi vienne à naître aussi en eux. En tout cas, que le Saint-Esprit soit au contraire de toute chose, qu'il se saisisse de ma modeste personne, qu'il vienne m'utiliser simplement comme un instrument entre les mains du Seigneur, et que la gloire de Dieu se manifeste à travers l'écoute de ta parole.
Amen.
Béni soit ton nom. Amen. Alors, frères et sœurs, dimanche dernier, j'avais promis qu'on allait poursuivre notre série de prédications sur les échanges sur la base d'Ésaïe 53. Souvenez-vous que dimanche passé, on a parlé du septième échange, si ma mémoire est bonne, et c'était que le Christ sur la croix avait pris notre honte. Voilà, et à la place, il nous a donné sa gloire. On a parlé de l'honneur, son honneur. Voilà. Et donc j'avais prévu ce matin de poursuivre avec ces échanges pour parler du rejet, c'est ce que j'avais dit. Le dimanche prochain, on parlera du rejet, que le Christ a subi notre rejet à la croix. Et à la place, nous avons reçu l'acceptation de la part de Dieu, le Père. Alors ce matin, permettez, le Seigneur m'a mis à cœur autre chose, je ne parlerai pas donc du rejet et de l'acceptation, mais je vais parler de, comment on peut intituler ça, en tout cas je vais parler des hommes forts, des hommes vaillants qui ont pris le risque de suivre David, de suivre le roi David, les vaillants hommes de David, comme on les appelle, les hommes de foi. Les hommes qui n'ont pas eu peur, les hommes qui ont osé. C'est de cela que je vais parler ce matin. Donc, nous allons faire une lecture dans le deuxième livre du prophète Samuel. 2 Samuel au chapitre 23, 2 Samuel 23, versets 8 à 12. La première lecture et la deuxième, ça sera toujours dans ce même chapitre, les versets 18 à 19. Donc 2 Samuel 8 à 12 et 18 à 19. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent en l'honneur de la parole de Dieu. Samuel chapitre 23, 8 à 12. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retirait sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Versets 18 à 19. Abishai, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Les trois que nous venons d'évoquer, Jochebed, Éléazar et Shamma. Donc on nous dit, Abishai, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il y eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Quand bien même qu'il était leur chef, mais il ne les égalait pas. Jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, en lisant ce deuxième livre du prophète Samuel, vous voyez que nous sommes quasiment à la fin du livre deuxième du prophète Samuel, et nous sommes aussi quasiment à la fin du règne du roi David. On va basculer justement avec le premier livre des rois qui parle du règne de Salomon. Règne de Salomon. Et c'est un récit qui finalement nous présente la vie de David avant sa venue au trône, avant qu'il ne revienne au roi. Et à cette époque, c'était Saül qui était le roi en Israël. Alors, ce texte nous parle des hommes d'exploit, des hommes qui ont accompli des exploits. Trois hommes nous sont cités dans ce passage. En tout cas, ces hommes qui entouraient David, des hommes de valeur. Alors, ces hommes l'avaient rejoint, avaient rejoint David alors qu'il se cachait. Il se cachait de Saül et se trouvait donc dans les cavernes, dans le désert. David venait de faire des exploits. Souvenez-vous, avec Goliath et ainsi de suite. Et finalement, non, David venait de faire des exploits et Saül avait peur de David. Il voulait même toucher à sa vie. Et David était obligé de fuir. Et dans sa fuite, il y a eu des hommes, et parmi eux, ces trois hommes, qui ont vu David fuir, mais en même temps qui ont discerné en lui qu'il avait un puissant appel du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le risque de suivre David. Je dis le risque parce que Saül pouvait les attraper en tant que roi et les exterminer. Mais ils ont pris le risque. Les 30 chefs étaient repartis, nous dit le texte, en groupe. Alors chaque groupe, en tout cas, avait un critère. Il figurait un critère pour chaque groupe. Les 30 étaient, on peut le dire ainsi, d'un critère d'excellence. Un critère d'excellence plus ou moins élevé. Ils se répartissaient en plusieurs groupes. Chacun d'entre eux représentait vraiment un niveau d'excellence différent, jusqu'à parvenir aux trois que nous avons nommés, qui sont appelés dans le texte les trois premiers. Vous voyez, on arrive aux trois premiers. Il se dit de tous les autres, en tout cas, qu'ils n'ont pas atteint ces trois premiers. Voilà ce qui est dit de tout le reste. Ils n'ont jamais atteint ces trois premiers. Alors, frères et sœurs, la question qui va nous occuper ce matin est de s'attacher finalement à l'excellence. C'est une question de s'attacher à ce que la Bible dit, appelle la prééminence. Mais quand je parle de l'excellence, de la prééminence, il ne s'agit pas du jugement des hommes, il s'agit de comment Dieu nous voit. Il s'agit de l'appréciation de Dieu sur ma personne, sur ta personne, sur nos personnes. Comment Dieu nous voit? Alors, pourquoi cette histoire est-elle écrite? Pourquoi, en tout cas, nous avons l'histoire de ces hommes et de leurs exploits? Est-ce que nous pouvons penser qu'il s'agit simplement d'inclure dans la Bible quelques histoires pertinentes, palpitantes, des faits merveilleux, en tout cas, que certains hommes ont accomplis? Quelques-uns de ces faits, vous voyez, nous paraissent, mais vraiment, on peut le dire, phénoménaux, extraordinaires. Est-ce là l'unique but, vraiment, de ces histoires, entre autres? Si la Bible est véritablement écrite sur la base de ce qu'on appelle des principes spirituels, en tout cas, elle ne peut s'en tenir à des histoires humaines liées aux choses d'ici-bas. Il doit y avoir quelque chose de fondamentalement spirituel derrière tous ces récits, mais vraiment tous les récits, tous les exploits, toutes les histoires que nous trouvons dans la Bible. Le principe spirituel que le Seigneur désire démontrer, frères et sœurs, et illustrer au travers de ses exploits, est celui-ci. Je parle bien de principe spirituel. Il est possible. Il est possible d'être des gens de premier. Il est possible d'être des gens de premier, de second ou de troisième catégorie. À chacun de choisir. Il est possible. Autrement dit, il est possible d'être classé dans des catégories différentes de grandeur et d'efficacité spirituelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Souvenez-vous que l'apôtre Paul encourageait un certain Timothée, son fils dans la foi, à ne pas être un serviteur de seconde classe, en quelque sorte, mais attendre à être premier, d'être au-dessus du lot et de ne pas se contenter de figurer dans la moyenne, pour ne pas dire dans la foule, dans la masse. L'apôtre Paul désirait que Timothée cultive en quelque sorte un intérêt particulier et utile. Je dis bien intérêt particulier et utile pour le Seigneur. Cultiver. C'est là, je pense, le principe sous-jacent de tout ce passage de 2 Samuel 23. Nous pouvons être classifiés, frères et sœurs, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous pouvons être comptés parmi les 30. Cette catégorie possède une certaine valeur, une certaine signification, une responsabilité spirituelle. Ceci, jamais insignifiant, bien au contraire, demeurant au-dessus, de tout ce qui formait la majorité des gens en Israël. Catégorie des 30 déjà. Mais il est possible d'aller bien au-delà de ces hommes. Vous pouvez toujours aller plus en avant, se démarquer des 30. Il y a une place qui est représentée par les trois premiers. L'apôtre Paul était, semble-t-il, la représentation, je dirais, parfaite, en tout cas, de cet esprit des trois premiers, lorsqu'il dit, je cite, « Mais je fais une chose, oubliant, en tout cas, les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours. » Il dit « Je cours droit au but » pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Philippiens chapitre 3, verset 14. Et aussi, mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause de Christ comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Philippiens 3, verset 7 à 8. L'excellence. La chose qui excelle, l'excellence. L'excellence de la connaissance du Christ Jésus, c'est la personnification de l'esprit de ce qui est premier avec le Seigneur. L'excellence. Ce qui est premier avec le Seigneur. L'apôtre Paul utilise souvent le mot parvenir. Parvenir. Si, en quelque manière que ce soit, je puis parvenir. Par exemple, Philippiens 3, verset 11. Il est question d'atteindre, il est question de parvenir, de tendre à quelque chose. Cela, frères et sœurs, n'a rien à voir avec notre salut initial. On ne dit pas « je veux atteindre le salut ». Non. Dans le sens premier, nous n'atteignons pas en vue du salut, car le salut ne résulte pas de quelques efforts venant de notre part, d'une détermination de notre part. Le salut dans le sens d'être amené depuis le jugement jusqu'à la réconciliation avec Dieu, l'abondance du pardon, l'assurance du salut, etc. Tout cela nous est donné, nous dit la Bible, par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Cependant, le Nouveau Testament fait souvent mention de cette dynamique suggérée par les mots « atteindre », que nous puissions atteindre, ça sous-entend un effort derrière, que nous puissions atteindre, que nous puissions parvenir. Oui, un homme vient voir Jésus. Un homme vient voir Jésus et dit, mais bon maître, mais que ferai-je afin que j'hérite la vie éternelle? Que faut-il faire pour parvenir à la vie, pour atteindre la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Marc 10, 17. Le Seigneur Jésus n'a pas exprimé qu'il lui était impossible d'avoir cet héritage. En substance, Jésus lui dit qu'il pouvait en avoir, en tout cas en hériter, mais quelque chose d'autre doit aussi être atteint d'abord. Quelque chose d'autre. Il y a une position à laquelle nous devons parvenir. Une position d'une valeur toute particulière pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Une position par excellence, je dirais même une position suprême à atteindre. Le Seigneur veut trouver en nous la détermination. La détermination qui, par sa grâce, je dis bien, n'acceptera rien de moins que le plus élevé. Et rien de moins que la plénitude que Dieu lui-même désire voir en nous. La plénitude que Dieu désire voir en nous. Ceci est en rapport avec notre valeur et notre utilité pour lui. Est-ce que je suis vraiment utile pour mon Seigneur? Mais ce n'est pas un hasard que chacun de nous se retrouve dans ce monde. Notre naissance n'est pas un hasard. Dieu a fait un placement en permettant que nous puissions naître dans ce monde. Mais est-ce que je suis utile pour le Seigneur? Peut-être vous demandez-vous quelles sont les marques de cette prééminence, quelles sont les marques de l'excellence. Alors, en tout cas, j'ignore si c'était les actions de ces hommes qui les rendait excellents, bien que ce qu'ils ont fait était vraiment hors de commun. D'autres ont aussi accompli des choses remarquables. Alors, l'un d'entre eux, nous dit le passage, descendit dans la fosse partant de neige. C'était l'hiver. Et là, il tua un lion. Dans une fosse, il descend. Pas possibilité de remonter, mais il affronte un lion dans la fosse. Et il est dit, il tua un lion. Descendez dans une fosse, et y trouver un lion. Frères et sœurs, vous savez ce que représente un lion ? Un lion représente un défi. Un défi et demande beaucoup de courage. J'ai entendu récemment un témoignage. Un témoignage d'une sœur dans le Seigneur qui devait sortir pour aller à son lieu de stage. Et elle a voulu emprunter un chemin qu'on appelle un raccourci. Elle avait son ordinateur en main. Et là, alors qu'elle marchait tête baissée, elle a réalisé qu'elle devrait affronter quelque chose. Et c'est comme l'Esprit du Seigneur lui a demandé de relever la tête. Et elle s'est retrouvée en face d'un homme qui était armé et qui l'a attaqué. Une femme, une jeune demoiselle. Et que s'est-il passé? Elle a prié simplement au-dedans d'elle. Elle a imploré la présence de Dieu. Elle a invoqué le Seigneur. Il dit, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Alors, je vous passe des détails, mais cette sœur, aussi jeune qu'elle était, elle a terrassé cet homme qui avait une arme. Et l'homme a jeté l'arme et s'est enfui. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'étais stupéfait. Ce que Dieu est capable de faire. C'était un défi. C'est comme celui-là qui tombe dans une fosse et qui rencontre un lion. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'en remettre à Dieu et lui demander les forces nécessaires pour affronter le défi. Un lion représente un défi et demande beaucoup de courage. D'autres se jetèrent dans la bataille contre des géants et les ont terrassés. Ces choses représentent des exploits. Des exploits. Ces trois hommes ont fait peut-être quelque chose d'encore plus grand. Mais je ne pense pas que, en tout cas, leur supériorité se limitait à ce qu'ils avaient accompli. Bien sûr, le premier nous dit a tué 300 hommes en une fois. D'ailleurs, on trouve le récit aussi dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 11. Il est dit 300. Seul, il a fait face à cette situation désespéré. Il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que tous soient tués. 300. Concernant le second, donc Éléazar, nous lisons que les Philistins menaçaient une parcelle d'orge. Tout Israël s'enfuit au devant d'eux. Mais Éléazar, lui, s'est tenu au milieu de la parcelle et l'a défendue. Il a combattu les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle demeure attachée à l'épée. Et le troisième, qu'en est-il de Shama? De façon similaire, il a défendu une parcelle de lentilles. Une parcelle de lentilles face aux Philistins, tandis que le peuple s'était enfui. Il a éliminé l'ennemi. Il a persévéré, il a préservé, pardon, ainsi la nourriture pour le peuple. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ces exploits, frères et sœurs, mentionnés ont peut-être leur propre signification symbolique, hein, mais cela ne nous importe pas. L'important est ceci, bien-aimés, ces hommes forts ont vécu pendant un moment de transition. Je dis bien un moment de transition. Quelque chose qui était au-dessous de la pleine pensée de Dieu pour son peuple primait. Saül, je l'ai dit, était sur le trône. Et ceci n'était pas selon la volonté de Dieu. Saül n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. C'est le peuple qui avait demandé un roi que Dieu leur avait donné, Saül. Donc, sous la domination de Saül, le peuple avait été amené à un autre ordre des choses. Le peuple d'Israël. Il était sans cesse sous la menace de la famine spirituelle, sans cesse dans la défaite, le peuple de Dieu, sans cesse dans la faiblesse, sous le joug et dans l'incertitude, tout le temps. Le peuple ne savait pas où il en était, et ne savaient pas, en tout cas, quel chemin emprunter, quel chemin prendre. Une pensée autre que celle de Dieu prévalait en tout cas parmi son peuple. La situation était confuse et l'insatisfaction totale. La pleine pensée de Dieu était centrée en David. Et la première caractéristique de tous les hommes forts de David était qu'il percevait. Il percevait l'état de ces choses. Il se disait, non, Dieu n'est pas avec Saül, Dieu est avec David, et nous, on va prendre le risque de suivre David. Même si Saül parvient à nous attraper, à nous tuer, nous prenons le risque de suivre Saül. Ils avaient compris intérieurement, au-dedans d'eux, que la parole du Seigneur révélait la pensée de Dieu et que cette pensée était beaucoup plus grande et d'une autre nature que ce qui prédominait alors. Bien-aimé, je ne sais pas si dans votre vie aussi vous avez eu à discerner un homme qui a été vraiment appelé par Dieu et vous vous êtes dit, je vais me mettre au service de cet homme parce que je discerne en lui un appel du Seigneur. Un appel du Seigneur. David trouvait là ce qu'on appelle des hommes de destinée pour son ministère. En servant David, en prenant ce risque, mais il servait Dieu en même temps. Il servait Dieu en même temps. C'est une vision, c'est un entendement spirituel. Et ça, ça marquait la transition, justement. Et qui allait, justement, amener David au trône. C'est là la première chose, frères et sœurs, voir, appréhender ce qui n'est pas généralement vu par le peuple. Par le peuple de Dieu, ce discernement, cette chose vraiment désirée par le Seigneur, cette chose qui, si elle se réalisait, en tout cas impliquerait un grand changement pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Quelle plénitude étendue et quel niveau plus élevé le peuple vivrait alors si cette chose venait à se concrétiser. Ici commence devant nous, frères et sœurs, la grandeur du principe spirituel. Ces hommes forts ont perçu et ont saisi la pensée de Dieu. Ils ont perçu, ils ont saisi la pensée de Dieu. Ils ont compris justement la direction de Dieu. Et ils se sont dit, bon, c'en est assez de cette situation que nous vivons avec Saül. Il faut que les choses changent. Nous y participions. Mais c'est fini maintenant. On était à côté de Saül, mais c'est fini. À partir d'aujourd'hui, nous nous préoccuperons de la pleine pensée de Dieu et rien de moins ne nous satisfera. Ils ont consacré, ils se sont consacrés entièrement à cette pensée. Et c'est ici, donc, frères et sœurs, le commencement de la grandeur spirituelle. Percevoir quelque chose de Dieu et y mettre toute sa détermination, toute sa volonté, quitte à prendre les risques. Ensuite, nous voyons que ces hommes étaient marqués par un sens de responsabilité aiguë, un sens de responsabilité. Ils ne nous donnent pas l'impression d'avoir eu besoin d'être encouragés et poussés vers l'avant. Nous en avons toujours besoin, qu'on nous encourage, qu'on nous pousse vers l'avant, mais ce n'était pas le cas pour eux. Ils prenaient l'initiative quant à leur responsabilité. Chacun d'entre eux se disait, en quelque sorte, en substance, cette chose primordiale de la pensée de Dieu, en tout cas, devient quelque chose de personnel pour moi. Quelque chose qui est de la pensée de Dieu va devenir quelque chose de personnel pour moi. Et moi, je l'amène totalement jusqu'à moi. Je m'en approprie. Voilà ce qu'ils se sont dit. Les autres sont peut-être partis. Il n'y a peut-être plus personne ici qui se sente concerné, mais parce que j'ai appréhendé cette pensée divine, je refuse de l'abandonner. Je m'accroche à cette pensée et cela devient une affaire personnelle. Frères et sœurs, qu'avez-vous fait d'affaire personnelle ce qui relevait de Dieu? affaire personnelle, au point de vous en préoccuper personnellement. Vous voyez, que ce soit contre 300 ou contre 800 ou même tous les Philistins à la fois, ces hommes ont tenu bon. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui reculent, qui relâchent, ou nous sommes de ceux-là qui avancent et qui tiennent bon? Voyez, même s'ils sont seuls, ils ont tenu bon. C'est toute la responsabilité de ce témoignage entier qui est saisi par l'individu, comme si celui-ci reposait sur lui, seul, à ce moment précis. Je disais tout à l'heure, c'est là la grandeur supérieure. Certains se plaisent dans la foule. Ouais, tant qu'il y a la foule, voilà, je suis dans la foule. Ils agissent quand d'autres sont là pour les encourager, pour les soutenir. Si les autres ne sont pas là, ils ne vont pas agir. Beaucoup de ceux-là disparaissent justement lorsqu'il s'agit de tenir seul dans l'adversité, seul dans une caverne avec un lion. La grandeur supérieure se démontre, frères et sœurs, par la prise de responsabilité personnelle en rapport avec la pensée de Dieu, en rapport avec l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que d'autres qu'on fasse autant ou non, ça vous concerne, vous, personnellement. Vous n'avez pas besoin d'être remarqué. Considérant l'apôtre Paul, voyez, de sa conversion à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, il semble avoir été ainsi. Tout à la fin, on l'entend s'exclamer. Il dit, mais tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. 2 Timothée 2, verset 15. Tous, ils se sont détournés de moi. Autrement dit, bon, je suis resté seul ou quasiment seul. Celui-ci et celui-là sont partis. Luc seul est avec moi. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Paul se trouve pratiquement seul, mais jamais, au grand jamais, il n'abandonne. Jamais. À ce moment précis, et comme jamais auparavant, Paul va s'élargir pour la pleine pensée de Dieu. Le fruit de sa consécration se trouve effectivement dans ses lettres écrites en prison. Il est en prison. Mais il ne passait pas des journées en train de dormir, en train de pleurnicher. Il passait le temps en train de penser à nous. Qu'est-ce qu'il devait nous laisser ? Les épîtres. Il pensait toujours à l'œuvre de Dieu étant en prison. La grandeur spirituelle est la volonté de prendre position pour ce qui est de Dieu. Révélé comme étant sa volonté, même si nous devons être les seuls à le faire, à le faire. C'est peut-être un contre tous, il peut y avoir beaucoup de solitude, mais en tout cas c'est là le test de notre capacité spirituelle. C'est dans l'initiative et la responsabilité qui n'attend pas qu'une organisation se forme. Oui, pour faire face à la situation, que l'attachement à la pensée de Dieu deviendra une affaire personnelle et ce potentiel spirituel sera sans restriction. Dieu, je disais, a fait des placements sur nous, mais ce n'est pas sur nous seulement de façon ensemble, mais de façon individuelle. Est-ce que nous nous représentons ce que Dieu a mis en nous ? Christ en nous, dit l'apôtre Paul, l'espérance de la gloire. Christ est en nous et il nous envoie son esprit qui habite en nous. Ensuite, il semble que leur capacité d'endurance quant à l'achèvement de ce qu'ils ont vu était un élément important de leur grandeur spirituelle. Je commence non pas pour arrêter la course. J'ai cette conviction, quelles que soient les difficultés, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Une caractéristique les concernant tous est indiquée par l'un d'entre eux. Sa main demeura attachée à l'épée. Autrement dit, il s'est tenu si fermement et avec tant de détermination dans cette situation qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Sa main est attachée à l'épée. Donc, on ne peut même pas penser à ce instant abandon. Ce n'est pas possible. Sa main et son épée sont devenues pratiquement indissociables. Indissociables. Alors, certains sont épuisés par le combat, mais ils persévèrent jusqu'à la fin. Ceci est important, primordial, la persévérance. De nombreux individus peuvent commencer énormément de choses avec beaucoup d'entrain. Cependant, la plupart resteront inaboutis, non accomplis à tous les niveaux. Leur vie est marquée par des choses inachevées. Ils commencent bien, mais rien n'est mené jusqu'à son terme. Ils arrivent à un point où ils se lassent, ils se fatiguent. Mais vraiment, est-ce que nous sommes de ceux-là qui doivent se fatiguer ou qui se fatiguent? Mais la Bible dit non, nous ne sommes pas de ceux-là. Même s'il faut payer le prix, nous devons être prêts à payer le prix. Beaucoup de passages du Nouveau Testament nous encouragent, frères et sœurs, à la persévérance. Mais pourquoi devons-nous persévérer? Mais parce que nous avons un Dieu qui est fort. La persévérance ne va pas nous donner la victoire venant des efforts de notre part. La persévérance nous donnera la victoire parce que lui qui est en nous, il est déjà vainqueur. Et la Bible dit c'est lui qui combat pour nous. La vigueur spirituelle est le test de la grandeur. Et ça passe par la persévérance. Bien-aimés, nous sommes impliqués dans cette œuvre et nous ne pouvons pas abandonner. Dieu nous a embauchés pour l'avancement de son œuvre. Nous ne pouvons pas abandonner. Il n'est même plus question dorénavant de vouloir ou non délaisser quoi que ce soit que Dieu nous ait confié. Non, nous devons continuer à persévérer. Une marque de grandeur spirituelle est cette vigueur qui va au-delà de l'engouement initial. Nous devons toujours être déterminés, au-delà de l'enthousiasme du début. Et très souvent, c'est ça notre manière de fonctionner. Nous sommes enthousiastes au départ et après, les choses baissent d'intensité. Mais ça devait être le contraire. Continuer à rêver avec le Seigneur, mais parce que lui, il est grand. C'est lui qui est notre stimulus. Bien-aimé, quand la monotonie s'installe et que l'aspect attrayant des choses s'est estompé, cela devient une affaire pâle, une affaire monotone. Ainsi, vous voyez que l'épée d'Éléazar s'est attachée à sa main, à l'épée. L'épée, c'est une arme. Et dans cette course, dans ce combat, nous avons besoin d'une arme qui est la parole de Dieu, que nous devons toujours garder attachée. Elle ne doit pas s'éloigner de nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, le test de la capacité spirituelle se constitue ainsi. D'abord, il faut voir. Il faut voir la pleine pensée de Dieu. Il faut chercher à discerner quel est le désir, qu'est-ce que Dieu veut, et ne rien accepter de moins, et s'y consacrer entièrement, une fois qu'on a discerné cela, la pensée de Dieu. Ensuite, avoir de l'initiative et prendre sa responsabilité dans les implications de cette pensée divine, de façon à ne pas avoir besoin d'y être rappelé, et d'être exhorté, et d'y être contraint, remorqué. Cette pensée vit en nous, nous y sommes éveillés et nous nous appliquons car elle est devenue une affaire personnelle, une affaire nous concernant directement. Enfin, pour changer un peu la métaphore, ayant la main à la charrue, à l'épée, à la charrue, ne jetant aucun regard en arrière, oui, ne laissant aucun champ à moitié labouré, aucun, ne lâchant rien parce que les choses deviennent difficiles et monotones, mais persévérant jusqu'à la fin, même si ce doit être dans la lassitude, dans la difficulté. Je pourrais ajouter encore enfin un mot. C'était un jour de foi. C'était un jour de foi. Ces hommes ont discerné véritablement que la parole de Dieu était dans la direction de David. Or, nous devons garder en mémoire que David se trouvait bien seul, seul en ce moment-là. Il avait très peu de gens avec lui et cela était vraiment dans la faiblesse, ce qu'il avait subi. Ils avaient été dépouillés de tout et le pays entier restait avec Saül. Saül tenait les rênes du pouvoir, en tout cas dans ses mains, et il était risqué, mais vraiment risqué de s'en désolidariser. Personne ne savait, humainement parlant, si la cause de David allait aboutir, allait prévaloir. Personne ne savait. Personne ne voulait faire partie d'un soulèvement qui aurait été écrasé et qui aurait occasionné la perte de toute chose. Cette situation était totalement périlleuse, mais c'était un jour de foi. Un jour dans lequel tous ceux qui ont pris position l'ont fait par la foi. Par la foi. Oui, frères et sœurs. Qu'est-ce que la foi que Dieu nous a donnée nous pousse à faire? Qu'est-ce que nous faisons avec la foi que Dieu nous a donnée? Quels sont les risques que nous sommes prêts à prendre en se basant sur la foi? Quand nous lisons Hébreux 11, là où nous avons tiré pas mal de textes pour cette année, mais quand nous lisons Hébreux 11, cette galerie de la foi, mais regardez que tous ces hommes de foi ont posé un acte, Hébreux 11. Lorsque vous en arriverez à la conclusion, Hébreux 11, et que dirais-je davantage, car le temps me manquerait si je continue. Hébreux 11, 32, vous remarquerez que David y est mentionné et qu'il y est dit parmi d'autres choses de ceux concernés qu'ils ont subjugué même des royaumes. Des hommes vaillants dans la bataille. Ils ont accompli des exploits. Je pense que les enfants de David sont comptés parmi ceux-là qu'on a cités, même si leurs noms n'apparaissent pas à la fin d'Hébreux 11. C'était le triomphe de la foi, le test de leur stature spirituelle résidait là, la foi. Frères et sœurs, s'il y a deux choses qui devraient nous caractériser, qui devraient caractériser l'Église, c'est la foi et l'obéissance à la parole. Vous enlevez ces deux choses, l'Église n'existe plus. Sans la foi, sans l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde ces deux choses, la foi et l'obéissance pour faire avancer son œuvre. Il s'agit de son œuvre et il veille sur cette œuvre pour pouvoir l'accomplir. Êtes-vous conscient sûr que Dieu parviendra à accomplir son œuvre ou pas? Il arrivera à accomplir son œuvre. Oui. En tout cas, que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole est bien claire. C'est nous, très souvent, qui ne parvenons pas à prendre ta parole au mot. Tu dis, avec moi, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces genres de propos encourageants se trouvent vraiment éparpillés dans toute la Bible. Et le Nouveau Testament ne cesse de nous enseigner sur la persévérance, même dans l'épreuve. Nous devons garder la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons ce matin que souvent nous brillons plutôt par notre incrédulité. Mais viens nous en délivrer, Seigneur. Viens nous en délivrer, et puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme ton serviteur qui avait cette épée vraiment accrochée à sa main, lui accorde-nous aussi de faire de ta parole vraiment quelque chose que nous allons toujours parcourir au quotidien. Comme il est dit dans Josué 1:8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de nous, que nous puissions vraiment méditer cette parole chaque jour, car la victoire dépend aussi et beaucoup de notre capacité à rentrer dans ta parole, à nous en approprier. Accorde-nous cette capacité spirituelle, Seigneur, de pouvoir méditer tout le temps ta parole et avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir recevoir de toi les orientations, la révélation nécessaire dont nous avons besoin pour nos vies, pour ton Église, pour l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.